Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Je vous propose aujourd'hui de parler du péché. Du péché, évidemment, ça sous-entend la tentation. Et bien entendu, j'espère que nous arriverons à aborder aussi la miséricorde de Dieu. Alors, le péché, c'est un fardeau pour chacun d'entre nous. Parce que le péché, il nous enveloppe facilement. Et nous courons avec patience, c'est dans Hébreux, évidemment, pour se libérer peut-être de cet engluement, de cet enlisement qui, évidemment, détruit, salit la figure de l'homme. Et donc, ce péché qui nous enlise facilement, dont je viens de le dire, c'est difficile à définir et à comprendre pour le commun des mortels. Ce péché, pourquoi arrive-t-il d'abord comme ça à nous rendre malheureux? Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ça? C'est un constat sur le péché, d'abord sur l'homme. Après, on développera.
En premier lieu, je dirais que la rencontre avec Dieu, quand on comprend bien ce que Dieu fait pour nous, devrait nous faire basculer complètement de l'autre côté, c'est-à-dire de ne plus être malheureux à cause de nos péchés. Autrement dit, de comprendre que Dieu a réglé la question du péché une fois pour toutes, premièrement, et ensuite que le péché est la manifestation de mes carences. Deuxièmement, voilà, je n'ai plus de problème avec le péché à l'égard de Dieu. Dieu n'est plus mon juge puisqu'il a Jésus-Christ a porté mes péchés pour que j'en sois moi, je n'en sois plus coupable. Premièrement, et deuxièmement, quand je pêche, il est simplement manifesté finalement là où je dois progresser.
Oui, effectivement, c'est certain, je vous crois parfaitement. Et je connais donc l'œuvre rédemptrice que nous a offerte par Jésus, qui va nous justifier par son sacrifice, mais je pars du départ, si vous voulez. C'est un peu comme si c'était une histoire. Un homme, il pêche, et au début, s'il pêche, il se laisse aller au péché, il n'a pas obligatoirement, et certainement pas, je voudrais me dire, pensé à la rédemption. Alors, pour prendre les choses autrement, pourquoi l'homme pêche-t-il?
L'homme pêche à la base parce que nous, les humains, nous avons perdu le contact avec Dieu. Ayant perdu le contact au niveau personnel, au niveau relationnel, nous avons également perdu le contact au niveau de la connaissance des choses. Et de ce fait, nous les faisons mal. Pêcher, c'est faire mal. Et c'est aussi se faire mal.
Se faire mal. Et n'est-ce pas aussi l'aboutissement peut-être d'un processus? Disons, au départ, il y a une situation donnée, l'homme dans un cas particulier, qui vient peut-être aussi de son éducation, d'un exemple qu'il voit, de sa propre faiblesse morale, je reste sur ce niveau-là, et puis donc il s'en rend compte, il va y avoir une espèce de colère, de révolte contre ce propre état, et il y a un sentiment d'injustice peut-être qu'il va ressentir pour lui-même. Il va être découragé, et ça je crois que le découragement joue un rôle important dans le péché. Il va y avoir donc un abattement qui va se manifester d'une façon ou d'une autre. Ça va l'amener peut-être évidemment à l'exprimer, alors verbalement, et là ça peut, une parole peut être un péché, peut faire effectivement très mal aussi, qui peut s'envenimer, bien entendu. Et puis il y a un passage à l'acte. Un passage à l'acte qui, bien entendu, je prends le cas extrême, c'est de la violence qui débouche sur un meurtre. Voilà, donc comme ça, on ne pourra pas faire dans le détail, là c'est clair, net et précis, bien entendu. Donc ça peut arriver dans un processus, que ce processus existe.
C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux.
Voilà.
Mais dans le cercle vicieux, il y a toujours un ensemble de situations dans lesquelles on pêche. Il y a une situation de base, à l'origine, où on pêche et où on pêche, et ça nous amène à pécher de plus en plus. Par exemple, la lettre aux Galates nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu, que ce que quelqu'un sème, cela aussi il le récoltera. Autrement dit, quand on pêche, non seulement on se fait mal parce que on pêche, mais on se fait mal parce qu'on se prépare à pêcher à nouveau, parce qu'on sème quelque chose qu'on récoltera. Donc il y a un cercle vicieux, c'est tout à fait vrai, mais ce cercle vicieux, avec l'Esprit de Dieu, peut être interrompu à tout moment. Alors, tout à l'heure, vous avez demandé des précisions sur le, Qu'est-ce que c'est que le péché? Je crois que définir le péché, effectivement, ça donne l'occasion de couper, de comprendre quand on pêche, et finalement, de le faire moins, parce que on aura un levier sur lequel on pourra agir. Je vous en propose quelques-unes de définitions. La première, c'est que dans le grec du Nouveau Testament, le péché est appelé anomia. Nomos, c'est la loi. Anomia, c'est l'absence de loi. Autrement dit, on pourrait dire que péché, c'est l'absence de règles. Je donne un exemple. Si vous confiez un ordinateur à quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, eh bien, il péchera parce qu'il utilisera mal l'ordinateur. C'est ça, l'anomia. Et il y a beaucoup de choses qui nous paraissent évidentes dans la vie, à l'égard de l'ordinateur, à l'égard de la voiture où on a un permis de conduire, à l'égard des études où on a des diplômes qui sanctionnent les études, à l'égard de tant de situations dans lesquelles on a un permis, mais par contre on n'a pas de permis de manger, par exemple. Et donc, à l'égard du fait de se nourrir, c'est sûr qu'on pêche parce qu'on mange trop, parce qu'on mange mal, parce qu'on ne mange pas au moment où il faudrait manger. Par exemple, il y a des régimes qui s'appellent les régimes chronophages, qui réapprennent aux gens à manger au bon moment, et pas trop manger le soir, par exemple. Il y a des régimes qui proposent de manger telle ou telle chose plutôt le matin que le soir, parce que finalement, on les digère de
Digère
manière
mieux.
différente. Ça, c'est l'anomia. Et donc, il y a une espèce il y a une absence de règles qui fait qu'on a du mal. Voilà une première définition.
Alors, je vous arrête tout de suite et je reprends l'exemple que je trouve excellent. C'est si je ne connais pas bien le fonctionnement de l'ordinateur, je vais le faire mal fonctionner et il y aura des problèmes. Mais alors, pourquoi je ne connais pas la règle de l'ordinateur? La loi?
Parce que je ne l'ai pas apprise.
Est-ce que vous aviez la possibilité de l'apprendre?
Fondamentalement,
Vous voyez où je veux en venir.
bien sûr, fondamentalement, Adam et Ève sont en Éden et sont là pour apprendre des choses avec Dieu. Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, ça veut dire, je pense assez directement, Adam, c'est moi qui vais t'apprendre ce qu'il faut que tu comprennes. Et Adam n'a pas à l'apprendre tout seul. Autrement dit,
Voilà, ce qui est important, parce que je vais vous dire, mais justement, si vous recherchez la connaissance, c'est pour bien faire fonctionner l'ordinateur. Mais là,
voilà.
il ne faut donc pas oublier ce que vous venez de dire, qui me paraît essentiel, c'est que Dieu se réservait le droit, bon, le mot n'est pas très bien choisi,
Voilà,
le droit
droit,
avec
devoir.
Dieu, hein, de le lui annoncer.
C'est
Il devait
ça.
avoir un plan peut-être prévu pour ça, un
Voilà.
programme, un
Oui.
référentiel
Oui.
divin.
Voilà.
Donc c'est ça
C'est
qui est
ça.
important. Sinon, on ne peut pas lui reprocher à ce malheureux Adam de vouloir savoir comment fonctionne cet ordinateur qu'il trouve sous un pommier ou sous un figuier. Hein.
Et donc, le texte restant un peu mystérieux, on voit Adam et Ève qui sont chassés d'Éden et qui sont en quelque sorte bien chassés de la présence de Dieu et livrés à eux-mêmes. Ils ont voulu être livrés à eux-mêmes, ils sont livrés à eux-mêmes. Bon, de ce point de vue-là, leurs enfants naissent, se développent, sans règles, sans loi. Et de ce fait, effectivement, Caïn va tuer Abel. Et il y a toute une lignée de personnes qui seront méchantes. Et on voit, à partir de Seth, qui est le troisième enfant d'Adam et Ève, qu'on commence à invoquer le nom de Dieu, comme pour finalement se replacer devant lui et pour récupérer cette faculté d'entendre la règle.
Donc, si on se met à invoquer le nom de Dieu, c'est que d'une part, on ne se sent pas bien, on est malheureux, il manque quelque chose, et d'autre part, on reconnaît quand même que Dieu est là.
Oui, c'est, je pense, la grande vertu de tout ce que Dieu a créé. Quand on fait mal, on se fait mal, et comme on n'a pas envie d'avoir mal, on cherche à voir comment est-ce qu'on peut se faire moins mal, en fait.
Oui, c'est normal, oui, c'est logique.
C'est logique, et
Oui.
pourtant, il y a tellement de peu de personnes
Et oui.
qui en tirent conséquence.
Oui. Donc, en fait, cette recherche de Dieu quand on se sent mal, hein, effectivement, c'est en fait peut-être aussi l'explication, la nécessité d'une religion.
Oui, Oui,
La source peut-être des religions,
de quelque chose
comme
qui nous
si...
remette, qui nous replace en relation avec Dieu.
Voilà.
Une deuxième définition du mot péché,
Oui.
c'est le mot toujours grec amartia, qu'on trouve, anomia et amartia, on le trouve dans le chapitre 3 de la première lettre de Jean. Et ce mot amartia veut dire assez littéralement absence de profit. Anomia, c'est absence de règles,
Oui.
et amartia, qui veut dire péché,
Oui,
c'est
oui.
absence de profit. Anomia, ça veut plutôt dire transgression, et finalement, amartia, c'est un péché, mais c'est parce qu'en fait, ce qu'on fait, eh bien, ça produit rien, ça produit pas bien. Autrement dit,
Ça, alors,
le...
c'est-à-dire, pour faire plus simple, peut-être, c'est que le péché ne donne rien de bon.
C'est ça.
Voilà.
Et autrement dit, dans le goût qu'on a des choses, dans l'impression, dans le résultat général, eh bien, on est privé de quelque chose, ou on a quelque chose qui ne nous convient pas, et donc il faut qu'on finalement qu'on soit conséquent et qu'on réagisse par rapport à ça. C'est intéressant d'avoir ces deux définitions. D'un côté, absence de règles, je pêche et je fais mal, donc je peux moins mal faire en comprenant mieux comment ça marche. Et d'autre part, j'en ai une absence de profit, de résultat, et de ce fait, mais quand je vais mieux faire, ben je vais mieux faire effectivement. Quand j'ai mal au dos, par exemple, soit c'est parce que j'ai le dos pas assez musclé, soit parce que je porte des charges trop lourdes, soit parce que je dors pas assez, soit parce que je me tiens mal. Donc en fait, c'est l'absence de règles, et c'est un résultat qui n'est pas très très agréable. Donc à moi de finalement de tenir compte de tout ça et d'entreprendre quelque chose de différent.
Alors pour aller dans votre sens, je veux dire, il suffit de se tenir droit, au
C'est
sens
ça.
propre, au sens
Et au sens
figuré.
figuré.
Parce qu'il ne respecte pas une règle, une loi, mais il n'en tire aucun profit. Alors voyons maintenant les conséquences du péché pour l'homme.
Les conséquences du péché, elles sont très très nombreuses. Je dirais que la première conséquence qui est magistrale, c'est qu'on n'est plus en relation avec Dieu.
Y a une séparation.
Adam et Ève sont malheureux de plus être en relation avec Dieu de manière directe, et la relation porte l'amour, et quand on n'a pas l'amour, ben on a rien. Et je dirais que il n'y a pas de conséquences plus graves que celles-là. Toutes les autres conséquences qui sont aussi nombreuses sont, mais finalement, elles sont moins importantes que cette relation qui est rompue. Ne pas être en relation avec Dieu, c'est ne pas être comblé, c'est ne pas être plein, c'est ne pas être finalement plein de l'amour qu'il nous porte, plein du soin, la conscience de sa main, de sa présence, de ce qu'il fait, les portes qu'il nous ouvre, le discernement des choses qu'il nous donne. D'une part. D'autre part, c'est aussi sortir du sens général de notre vie, de la puissance pour réaliser ce que nous avons à faire, de la compréhension de ce que nous avons fait dans le passé, et finalement des leçons à en tirer. Donc la coupure de la relation avec Dieu, c'est quelque chose qui est très, très douloureux à la base.
Donc il y a donc une séparation avec Dieu et un manque qui va se faire sentir, mais à son niveau aussi, l'homme va subir une souffrance, il va bien se rendre compte qu'il n'est pas bien, qu'il ne va pas bien. Comme vous parliez tout à l'heure de régime alimentaire, s'il a trop mangé, il va bien se rendre compte que c'est pénible après cette digestion difficile. C'est un peu léger, un exemple, mais enfin
Non,
bon.
non, pas du tout. Je dirais que il y a deux grands domaines dans lesquels l'homme n'est pas bien. C'est le domaine individuel et le domaine collectif. Dans le domaine individuel, on peut dire que, comment dire, on n'aurait pas assez, enfin, il faudrait décrire toute la vie de tous les hommes pour voir toutes les difficultés qui peuvent être la conséquence du péché. Mais finalement, tout ce qu'on fait mal, quand on ne sait pas chanter, qu'on a mal à la gorge, quand on ne sait pas bien manger, qu'on se fait mal au ventre, quand on ne sait pas être en relation, qu'il y a des coupures, des tensions, des tiraillements, des guerres, etc. Donc au niveau individuel comme au niveau collectif, il y a des difficultés qui sont très, très, très tangibles, très présentes.
Et donc le péché, séparation de l'homme avec Dieu, lui-même n'est pas très heureux, mais il doit y avoir aussi des conséquences vis-à-vis de son prochain, de ses proches,
voilà.
Proches ou moins proches.
Voilà. Sartre, dans Huis clos, a dit « l'enfer, c'est les autres ». Et c'est certain que la vie collective est vraiment la marque de la difficulté de vivre ensemble. On se rend compte d'ailleurs qu'on n'a jamais plus de facilité à vivre ensemble que quand on a un adversaire commun. Que ce soit au football, par exemple, on se retrouve français quand l'équipe de football joue contre une équipe d'un autre pays, mais quand, dès qu'on se retrouve entre régions, entre villes, ou dans une même ville, entre équipes adverses, alors on est dans des difficultés terribles. Voilà, dans la collectivité, quand on économiquement on parle de la balance commerciale de la France, alors tout à coup on a une notion collective qui est très très forte, mais dès qu'on est en France et qu'on regarde son propre profit, alors on dérape très vite, et puis c'est la guerre.
Oui, mais ça, cette notion de péché collectif, on pourra peut-être effectivement en parler, parce que c'est une notion qui se développe assez fortement ces derniers temps. Alors j'en reviens à la situation personnelle, si vous voulez. Donc, l'homme est arrivé à cette situation étrange, on s'est dit c'est la faute d'Adam ou la faute de Ève, mais non, c'est le serpent. C'est relativement simple. C'était eux les responsables qui nous ont mis dans cette situation-là. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'en fait, il y a eu des conséquences, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, pour tous les enfants. Premier crime, un frère qui a tué un autre, et ensuite, notre situation qui se prolonge jusqu'à maintenant. Alors c'est quand même curieux, et ça fait mal quelque part, se dire, mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis dans une drôle de situation, là, ces deux. Hein.
Il y a une belle expression, je trouve, dans le livre d'Osée, à l'égard du peuple Israël, qui dit, eux, ils ont fait la même chose qu'Adam. Et autrement dit, je pense que tous les humains, les hommes et les femmes, font la même chose qu'Adam. Et si nous avions été les premiers hommes, on aurait fait la même chose. Donc, moi, ça me met assez à l'aise avec Adam et Ève. C'est eux qui ont été les premiers, et ils ont donc inauguré
la série,
série des hommes et des femmes pécheurs. Mais je suis pas très très en colère contre eux. Je me dis voilà, à moi de ne pas faire comme eux. Et vous voyez, pour faire très très simple et très, très concret, en venant ici, je marchais dans la rue et puis j'ai vu à un moment donné une cartouche jetée par terre, une cartouche de stylo. Et je me suis dit ah voilà des gens non citoyens, inciviques qui jettent leurs choses par terre. Je fais 50 mètres et après je vois par terre un paquet de cigarettes. Alors je me dis, ah voilà encore de la non-citoyenneté. Et je me suis dit, mais tout de suite, après coup, je me suis dit, je ne pense pas que cela ne me soit jamais arrivé de ne pas jeter quelque chose par terre. Et donc je me suis trouvé en train de dire, ben voilà, ils ont fait comme moi, moi j'ai fait comme eux. Alors on ne peut pas réparer quelque chose qui est mal fait. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est construire avec la connaissance de ce qui est mal fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'en veux pas ni à Adam ni à Ève.
Mais est-ce que vous n'auriez pas pu ramasser la cartouche et le paquet de cigarettes?
Absolument. Voilà un geste citoyen qui est tout à fait dans le cadre de ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est complètement comme ça qu'il faut qu'on fasse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ces enregistrements.
Oui, hein,
c'est tout à fait ça.
Bien sûr. Alors, donc, il y a une règle, il y a une loi, et je reviens à Saint Paul, ce n'est pas une citation exacte, hein, je la cite de mémoire. Cette loi, disons, un peu peut-être difficile à saisir, son sens et son importance, parce que je crois qu'il dit, S'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Par exemple, je n'ai connu la convoitise que parce que la loi m'a indiqué que la convoitise existait. Alors, quel est le rapport comme ça, péché et loi?
Eh bien, il est tout à fait direct. C'est que on a vu tout à l'heure que si je n'ai pas de règles, de normes, je fais mal et je pêche.
Oui, mais là...
Mais si je n'ai pas un arbitre, comme la loi ou comme Dieu, qui me dise que j'ai mal fait, ou ma conscience par exemple, alors je n'ai pas conscience d'avoir mal fait. J'ai mal, je ne suis pas bien. Hein, je peux avoir de la tristesse, du vague à l'âme, être un peu perdu, mais si personne ne me dit, tu sais, là, tu fais mal, alors je n'ai pas la conscience précise de ce que je fais mal. Et c'est là le rôle de la loi. La loi n'est pas, comme nous dit la lettre aux Hébreux, pour amener l'homme à la perfection, elle est là pour reprendre l'homme, et de ce fait, en le reprenant, elle a du mal à lui apprendre quelque chose. Mais son rôle, c'est de reprendre.
Vous dites que si on n'a pas la connaissance de la loi, on ne sait pas qu'on va faire mal. Mais il y a un problème de conscience aussi. Imaginez. Si ça pouvait exister, effectivement, un personnage tout seul sur une île, il est né par miracle sur cette île, il n'a jamais eu de contact avec la société ni avec quoi, qui que ce soit. Est-ce que, je crois qu'il, quand il fait quelque chose de mal, je crois quand même qu'il en aura conscience.
Oui.
Parce que la conscience est au fond de nous-mêmes.
Oui.
Donc, la loi, conscience, rapport.
Alors, on va, dans un premier temps, définir ce que c'est que la conscience.
Oui.
La conscience, ça vient le mot conscience vient du latin cum scio, qui veut dire littéralement selon ce que je sais. Et la conscience, du point de vue chrétien, c'est le langage de Dieu qui s'exprime selon ce que je sais. Autrement dit, Dieu est dans mes pensées, et selon les pensées qui sont là, si les pensées sont bonnes, alors ma conscience est paisible. Si mes pensées sont mauvaises, alors ma conscience est éveillée, elle est reprise. Et si je m'endurcis, alors ma conscience est cautérisée. Donc, le rapport entre conscience et loi, c'est que la conscience est un mécanisme intérieur, le langage de Dieu en moi, qui va me reprendre qu'il y ait loi ou qu'il n'y ait pas de loi. Mais quand il y a loi, si la loi me dit par exemple « il faut rouler à 130 sur l'autoroute et pas plus », si je roule à plus de 130, alors la loi est là, comment dire, pour peser sur ma conscience. S'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de limitation de vitesse, alors j'ai conscience qu'en allant trop vite, je peux avoir un accident.
Bien sûr.
Mais la loi ajoute quelque chose à la conscience.
Oui, parce que sans loi, vous pouvez vous rendre compte, si vous dépassez les 100 km à l'heure sur la route, vous courez un risque et vous pouvez le faire courir à d'autres. Donc, voilà. C'est certain d'aller tout droit, effectivement, comme ça, à une catastrophe. Donc, à la limite, dans l'exemple est peut-être mal choisi, parce que même si ce n'est pas la loi qui nous limitait pour la vitesse, on saurait très bien qu'il faut quand même ne pas aller trop vite. Alors, vous pensez que c'est la peur du gendarme qui va intervenir?
Ah ben, dans le cas de la vitesse, je pense, et les résultats de la sécurité routière sont relativement parlants, je ne sais pas s'ils sont tous justes, mais je pense qu'ils, a priori qu'ils le sont, que la diminution de la vitesse a fait réduire de manière sensible le nombre de tués sur la route. Donc je pense que la loi a raison de nous imposer la diminution de vitesse, quoique personnellement je préférerais que la vitesse soit libre, en tout cas sur la troisième partie de l'autoroute, mais c'est un avis personnel.
C'est un avis tout à fait personnel. Oui, ça pourrait déboucher aussi sur d'autres accidents, effectivement. Donc voilà, on a bien avancé sur le péché, on a vu donc la source du péché, cette séparation avec Dieu, notre situation, et je crois quand même que vous avez autre chose à rajouter.
Oui, je voudrais dire que le péché me conduit dans une incapacité qui est notable, que je peux noter. Le péché est quelque chose qui me rend diminué, qui me rend amoindri, qui me rend impuissant devant une circonstance, qui me rend finalement qui me place dans des situations qui sont ennuyeuses. Et le péché n'est pas quelque chose qui devrait me faire culpabiliser, mais qui devrait me faire réagir. Prendre conscience de son péché, c'est une grâce de Dieu et non pas quelque chose d'ennuyeux. Le malheur, c'est que souvent, quand on prend conscience du péché, on en est écrasé, accablé, on essaye de compenser. Et souvent, par exemple, un alcoolique est quelqu'un qui peut boire à l'excès pour oublier qu'il pêche. Quelqu'un qui fait du footing pourrait être quelqu'un qui va se défouler dans le footing parce qu'il pêche. Alors qu'il sait bien de faire du footing, mais c'est malheureux d'être accablé par cette incapacité. Alors, comment sortir de la culpabilité? C'est, à mon sens, assez simplement de reconnaître le péché devant Dieu et d'entrer dans une dimension de réception, un peu comme quand j'ouvre les volets de ma fenêtre, la lumière rentre. Eh bien, quand je me place devant Dieu pour constater mon péché, je vais discerner le péché, je vais comprendre le péché, je vais réellement comprendre ce qui ne va pas en moi, et de ce fait, je vais sortir de l'incapacité.
Dans l'exemple que vous venez de prendre, l'alcoolique qui boit, peut-être pour oublier justement qu'il a ce défaut, qui commet une faute, ça me fait penser aussi à une chose, c'est qu'il y a des éléments qui l'ont poussé à boire. Effectivement. Et parfois, souvent, c'est le découragement. On avait parlé au début et je vous avais dit qu'on en reparlerait et on y est là. Et souvent, quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que si vous ne faites pas confiance à Dieu, c'est que vous n'avez pas la foi et que vous n'êtes pas le bon chrétien qu'on pourrait attendre, ce n'est pas un encouragement, mais ça peut être un découragement. Et ce découragement peut entraîner, évidemment, soit un abandon, se dire ben, je suis pas capable de comprendre effectivement ce qu'on m'explique dans la Bible, ou l'esprit m'a oublié, il est passé en courant. Ça peut venir de là aussi.
Oui, tout à fait. C'est ce que tout à l'heure j'avais appelé le cercle vicieux. C'est pour ça que c'est important, au moment où je le fais, de prendre conscience de ce que c'est que le péché, et grâce à la conscience, grâce à la présence de Dieu en moi, grâce à ce discernement du bien et du mal que je peux avoir par l'habitude, par l'ouverture à Dieu, par le fait de vouloir réellement me placer devant lui, alors à tout moment, je peux, moi, sortir de ce cercle vicieux en disant non. Ou en disant non au mensonge, oui à la vérité, non au mal, oui au bien. Autrement dit, à tout moment, même s'il y a un ensemble de choses qui produisent le découragement et que le découragement produit la prise d'alcool, alors, par exemple, quand je suis dans le découragement, si je dis non, je ne suis pas découragé, alors je suis moins encouragé à prendre de l'alcool. Si je prends de l'alcool, je dis non, je ne veux pas prendre de l'alcool parce que je suis découragé. Je vais m'occuper de mon découragement et je vais prendre un peu d'alcool. Et là, je vais briser ce cercle vicieux et rentrer dans un cercle vertueux. Il y a quelque chose qui est idéal, mais quelque chose qui est aussi accessible à toute personne par le mécanisme de la conscience, de prendre conscience du péché et d'arriver à réagir ponctuellement dans un ensemble de points. C'est ce qui nous sauve, parce que si on était vraiment dans une dynamique de laquelle on ne puisse pas sortir, alors on serait tous morts finalement. Mais dans cet ensemble de points, je peux toujours réagir et finalement reprendre pied par le mécanisme de la conscience, qui est un rapport très simple avec Dieu.
Alors, je crois qu'effectivement, c'est très possible, effectivement, ce que vous dites. Est-ce qu'on peut parler maintenant de la tentation? Est-ce que la tentation est un péché?
Être tenté, c'est être attiré par quelque chose qu'on connaît mal. Par exemple, on va prendre des exemples tout simples de la vie de tous les jours, hein. On peut être tenté de manger du chocolat quand on est inquiet. On peut être tenté d'aller faire un vol à la banque, avec un braquage avec arme, quand on manque d'argent, ou bien de voler chez son voisin, cambriolage dans une maison. On peut être tenté, par exemple, de mentir à la police quand elle vient investiguer et que nous sommes coupables. Voilà. Autrement dit, on a envie de faire quelque chose et la tentation, c'est de faire quelque chose dont on sait que c'est pas bien. Et je crois que les choses sont relativement simples quand on comprend bien que si on est tenté, c'est qu'on n'a pas idée d'à quel point ce que nous allons faire est pour nous beaucoup plus toxique que le bien que cela nous apporte. Autrement dit, ça nous apporte un peu de bien. Hein, pour le cambriolage, ça nous apporte de l'argent. Pour le mensonge, ça nous apporte une sorte de dignité. Pour le chocolat, ça nous apporte du punch. Mais finalement, ça ne résout pas le
Le
problème qu'il y a
problème.
derrière et ça nous amène dans d'autres problèmes qui seront très très importants. Et si on avait cette délicatesse intérieure de vouloir véritablement savoir vers quoi ça nous amène, alors je crois qu'on ne serait pas tenté.
Et pourtant, on l'est. Alors, je vais reprendre un exemple. C'est vous qui l'avez lancé, le premier, ce n'est pas moi. J'aime boire. C'est un exemple que je prends. Je vois un café. Et je m'arrête devant la porte, et là, il y a une tentation, c'est-à-dire une envie de rentrer. Et si je rentre, c'est pour boire. À la limite, je mets même la main sur la poignée de la porte. Et puis, je n'y vais pas. Donc, je résous mon problème. Donc là, c'est quand même relativement positif, puisque j'ai appris, disons, à ne pas appuyer sur la poignée à rentrer.
Oui.
Non. Et même je vais aller plus loin, je peux rentrer et puis regarder à gauche, à droite et ressortir. Jusque-là, ça va. Et il y aura péché si évidemment je me mets au bar et que je commande de l'alcool, sachant que ça va me faire mal, que je vais perdre ma conscience, que je vais dépenser l'argent peut-être du ménage et ainsi de suite, et que je peux faire des bêtises sous l'état de l'alcool parce que je sais ce que c'est.
Alors, il y a une chose que vous abordez là et qui est très importante, c'est de savoir quand est-ce qu'il y a péché.
Voilà, à partir de quel moment c'est. Il y a un franchissement de la ligne jaune,
Voilà.
pour revenir encore à votre exemple.
Nous, en tant que chrétiens, nous savons que nous ne sommes plus sous la condamnation. Donc, en fait, il n'y aura pas péché quand la loi, quand le couperet tombera en disant il ne faut pas que tu boives et quand tu bois, tu pèches. Non, pour moi, je pèche quand je donne à la boisson le prix qu'elle n'a pas. Autrement dit, je pèche dans ma pensée dès lors où j'accorde à la boisson une capacité qu'elle ne me donne pas. Et je pourrais très bien, moi, continuer à me donner, à garder, à cultiver cette idée sur la boisson et à résister de toutes mes forces pour ne pas aller au bar, pensant que c'est quand je vais au bar que je pêche. Le problème, c'est que ce n'est pas là quand je pêche seulement. Je pêche dans le prix que j'accorde à la boisson. Et c'est ça, en fait, la victoire sur la tentation. C'est de comprendre la valeur ou la qualité, la véritable valeur et la véritable qualité que j'accorde aux choses, une véritable qualité que je peux discerner avec l'Esprit de Dieu et non pas avec mes propres ressources. Parce que quand je suis livré à moi-même, alors je fais un peu comme tout le monde. Hein, je me vante, je me venge, je fuis, je compense, et je suis finalement dans quelque chose qui est toujours plus ou moins confus et dans lequel je pêche sans arrêt, et je suis sans arrêt tenté.
Oui, donc si je comprends bien, excusez-moi si j'essaie de pas de conclure, mais de résumer, en fait, péché, tentation, c'est le péché, donc la tentation, c'est une envie de faire quelque chose. Le péché, c'est de passer à une action ou à un état. C'est pas obligatoirement une action, ça peut être aussi un état, hein, le péché, un état d'esprit, justement, au sens propre, au sens figuré. Mais en fait, c'est si j'ai compris votre raisonnement, c'est la conséquence qui est le péché. La connaissance de ce qu'il y a au bout de la tentation et de l'action que j'aurais commise.
Oui, alors il faut un peu le préciser. Si je suis tenté, c'est parce que j'ai déjà péché en fait. Mais quand je suis tenté, après je pêche. Mais si je suis tenté par quelque chose,
Mais c'est peut-être quelque chose d'inconnu.
si je suis tenté par quelque chose, c'est forcément que j'ai une mauvaise représentation ou une mauvaise réalité de ces choses. Si je suis tenté de vous voler votre stylo, c'est que j'ai une mauvaise représentation de la propriété. Et donc, parce que j'ai cette mauvaise représentation, alors je suis tenté. Et il y a un verset de la Bible qui est intéressant à cet égard, c'est dans 2 Timothée 2, il est dit: Fuis les convoitises de la jeunesse. Autrement dit, on est jeune, et partout là où on est jeune, on n'a pas encore bien compris la réalité des choses. Si je suis tenté de mentir, si je suis tenté de faire mal, d'être violent, alors c'est que j'ai pas compris que cela ne me mène nulle part.
Alors, dans un autre ordre d'idées, dans le péché, puisqu'on est, c'est notre sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une hiérarchie des péchés? Dans certaines confessions, il y a le péché originel, puis il y a les péchés capitaux, et puis il y a les péchés qui sont moins importants. Quel est votre avis?
Alors, mon avis, c'est que tous les péchés sont des offenses pour l'être, pour l'individu, pour l'humain, et aussi des offenses pour Dieu. Et de manière générale, tous les péchés sont graves. Et je ne fais pas de différence de gravité, mais par contre, j'ai fait une différence dans la conséquence. Par exemple, aujourd'hui, avec ce qui se passe dans une centrale nucléaire et le plutonium qui est à 1200 degrés et qu'on ne peut plus ramener, le cœur est fondu, on se rend compte qu'il y a des conséquences qui sont très très graves pour le site et que dans un rayon de 50 km, personne ne pourra revenir pendant des milliers d'années. Voilà des conséquences qui sont graves. Mais à la base, l'erreur, elle n'est pas plus grave, l'erreur, elle n'est pas plus grave que le fait de mettre une plante au soleil alors que c'est une plante demi-ombre. C'est l'erreur à la même
Même
gravité. Vous voyez ce que je veux
conséquence,
dire?
oui.
C'est-à-dire qu'en fait, tout péché dans ce qu'il est a la même importance, mais par contre, dans les conséquences, c'est sûr que les conséquences sont très différentes. Si j'ai une forme de violence en moi et que je suis appelé à fuir quelqu'un, je pêche. Mais si j'ai une forme de violence en moi qui est la même et que je tue quelqu'un, je pêche, mais les conséquences sont terriblement différentes.
Oui, donc il ne vient pas, par exemple, qui vole un œuf peut voler un bœuf, ça n'a pas du tout d'importance, c'est les conséquences qui découlent du vol de l'œuf pour la personne qui était propriétaire de l'œuf ou du bœuf pour le propriétaire du bœuf,
Voilà.
hein, tout simplement. Hein. Alors, c'est une avance, effectivement, et donc peut-être quand même qu'il y a, j'allais dire une recette, le mot n'est pas encore là bien choisi, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Comment ne pas pécher?
Ne pas.
En gros,
Voilà, en
excusez-moi,
gros.
donnez-moi l'ordonnance,
Oui.
docteur, pour ne pas pécher.
Oui.
D'abord pour ne pas être tenté, puis de ne pas pécher.
Oui. Je dirais, faisons-nous un canevas très simple. La première des choses, c'est d'avoir une relation véritable et régulière avec Dieu. Autrement dit, d'avoir tous les jours, pendant un moment, un face-à-face de méditation, de dialogue, de recherche personnelle avec Dieu, dans lequel ma connaissance des choses va grandir et dans lequel Dieu m'instruira. La deuxième chose, c'est d'avoir l'honnêteté de faire la liste des circonstances dans lesquelles je souffre. Et parce que dans toute circonstance où je souffre, c'est que quelque part, j'ai pas compris comment est-ce que j'avais à faire. Et de fait, tenir leçon de la vie, faire profiter de l'expérience que j'ai de la vie et ne pas reproduire les mêmes choses. Et puis, troisième point, c'est être quand je suis dans une difficulté qui est nouvelle pour moi, c'est aussi avoir cette lucidité et ce courage de m'éloigner. Hein, finalement de faire attention parce que la chose est nouvelle et je sais que je ne sais pas, je n'ai pas encore l'expérience de tout ça, mais je vais finalement avoir cette honnêteté de dire là, je vais quand même faire plus attention. Donc trois choses, le face-à-face avec Dieu, première chose, deuxième chose, tirer expérience de ce que j'ai mal fait et comprendre la réalité des choses. Et puis troisième chose, faire attention dans des situations nouvelles dans lesquelles je pourrais être, moi, appelé à tomber alors que je ne suis jamais tombé.
On peut donc citer, à partir de maintenant, tout simplement, un passage de la Bible, 2 Chroniques 7, verset 7, ouais, jusqu'à 14. Hein. Alors, je vais vous le lire. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Donc, en fait, ce que vous venez de dire est déjà condensé dans la Bible, je vous félicite. Bon,
merci.
Mais seulement il y a une idée qui me saute là aux yeux, c'est que l'individu va être pardonné, mais aussi le pays. Donc il y a une notion de collectivité, de péché collectif. Alors qu'est-ce qu'il en est pour vous du péché collectif?
Il en est de deux réalités très différentes. La première, c'est celle que nous vivons maintenant. C'est clair que, par exemple, quand il y a une catastrophe nucléaire, il y a un problème qui est limité, comment dire, qui est à responsabilité limitée, c'est-à-dire que ce sont certaines personnes qui prennent cette responsabilité, mais les effets de la catastrophe retombent sur la collectivité. Et je crois qu'il n'y a pas tellement d'issue. On est coincé par la collectivité, on est solidaire, on est un seul peuple. On pourrait dire que, par exemple, quand un peuple décide de ne pas se révolter contre un dictateur et que ce dictateur, comme Saddam Hussein ou d'autres, font des bains de sang, alors il y a une responsabilité collective sur ce qui est mal fait. Et on est tenu par ces gens-là, et dans un sens, il faudrait que individuellement chacun se prenne par la main et fasse une révolution, et c'est ce qu'on a un peu vu hein, en Tunisie, en Égypte, c'est ce qu'on voit actuellement en Syrie, et puis en Libye. C'est cette volonté individuelle de faire quelque chose. Quant au verset de 2 Chroniques 7, verset 14, c'est un peu différent parce que Israël, c'est ce pays dans lequel Dieu veut habiter. C'est ce pays dans lequel Dieu veut être reconnu. Et donc, il y a en Israël une loi religieuse que nous n'avons pas en France. La France est un pays laïque. Et donc le pays laïque n'est pas tenu d'obéir à la loi religieuse. Mais en Israël, il y a une loi religieuse qui est la Torah, le Pentateuch, auquel tout le pays est tenu d'obéir. Et on pourrait même dire que quand individuellement le juif, à l'époque où Dieu était dans le temple, dans la gloire de Dieu remplissant le temple, eh bien, quand l'individu n'obéit pas à cette loi religieuse, alors il est sanctionné. Et donc on comprend que ici Dieu fait une adresse à l'ensemble du peuple en disant « Si mon peuple s'humilie, si mon peuple reconnaît ses voies, si mon peuple se détourne de ce qu'il fait mal, alors je viendrai, je le bénirai, je le restaurerai. » Autrement dit, il y a une bénédiction collective qui pour moi ne pourra pas trouver son lieu tant que le Messie ne sera pas là et tant que le Messie n'imposera pas finalement la loi de Dieu à l'ensemble des peuples. Pour l'instant, de nombreux peuples sur la terre sont des peuples laïcs, dans lesquels il n'y a pas de loi religieuse, et de ce fait, c'est très difficile de faire aller l'ensemble des gens dans une même direction pour que le pays dans son ensemble soit béni.
Je crois que nous avons bien parlé du péché, mais on n'a pas abordé une question essentielle concernant le péché. On se demande vraiment pourquoi Dieu n'empêche pas le péché. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que, bien sûr, partons du principe que Dieu est souverain, qu'il
Oui.
peut tout, tout le temps, avec toute personne, en tout lieu, et donc que rien n'arrive sans que quelque part il est autorisé. C'est quelque chose qui nous échappe, mais qui est quand même réel. Et si Dieu n'est pas souverain, alors pratiquement il n'est pas Dieu. Donc, comment est-ce que. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire quand nous péchons? Hein, c'est ça, ce problème qui se pose à nous.
On a l'impression que ça lui échappe.
Voilà.
Et
Et en
c'est
fait,
pas.
ça lui échappe pas.
Et ça lui
Hein,
échappe, c'est
voilà.
ce que j'allais
Voilà.
dire, oui.
Donc, d'abord, la Bible dit, par exemple, dans la lettre écrite par Jacques, au chapitre 1 et au verset 13, que Dieu n'éprouve personne. Autrement dit, c'est jamais Dieu qui me pousse dans les escaliers pour que je tombe. Dieu permet que je tombe dans les escaliers, mais c'est pas Dieu qui me pousse, c'est pas Dieu qui fait mal, parce qu'en fait Dieu ne fait jamais mal. Alors le mot mal est ambigu, hein, Dieu ne fait jamais mal. Ce que Dieu, c'est jamais mal, c'est jamais mauvais, et de ce fait, ça fait jamais mal. Donc je crois qu'il y a d'autres principes qui sont en jeu, et quand je fais mal, quand je me fais mal et quand je fais mal, alors, on peut dire que je suis participant à cet acte mauvais, à ce péché, mais on peut aussi dire qu'il y a tout un monde invisible mauvais qui est aussi
Intervient.
participant. Et le levier du monde invisible mauvais, la relation du monde invisible mauvais avec moi, il est dans mes pensées et dans le rapport à la vérité et au mensonge, dans le rapport au bien et au mal. Autrement dit, parce qu'il y a un monde adversaire, je peux tout à coup penser à mal et du coup avoir envie de faire mal. Voilà le donc la place de Dieu. Dieu est souverain, il permet tout, mais il le permet à bon escient, il le permet quand j'en ai besoin. Il permet en quelque sorte au diable, au démon, à l'adversaire de me titiller, mais si j'ai besoin de découvrir quelque chose. Et ensuite, il y a moi.
Oui, si je comprends bien, en fait, il permet au diable de nous tenter et de nous faire succomber, mais pour que nous, on puisse en tirer un profit. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas de profit au péché, mais il répète spirituellement quelque chose.
Voilà,
Je dois
exactement.
apprendre à reconnaître ma faute, c'est déjà quand même un travail. Ensuite, de regretter, ensuite de se faire humble, se mettre dans, revenir à Dieu, se mettre dans sa main et peut-être même réparer.
Absolument.
Ça serait dans le plan. Mais en fait, c'est quand même douloureux, hein.
C'est douloureux, mais c'est un peu comme tout. C'est douloureux de réfléchir à un sujet, de partir d'une feuille blanche et de poser les choses, mais quand on l'a fait, on est content. C'est douloureux d'avoir un projet, de construire une maison, d'avoir un enfant, ou bien d'apprendre un sport ou quelque chose. Quand on fait du sport et qu'on commence, on a toujours des courbatures.
Oui, bien sûr, mais c'est
Et
que ça.
pourtant, je pense que ça rentre dans l'ordre normal des choses.
Oui.
Alors, je crois que Dieu aussi, peut-être, a du mal. Et la preuve, c'est que dans les jours de la création, il travaille 6 jours et il se repose le septième.
Oui. Et le septième sera donc une phase sans péché,
Je dis
de
ça pour
repos,
dire que
de
c'est aussi
sérénité.
douloureux pour lui, puisqu'il se repose le septième, c'est qu'il s'est fatigué les 6 premiers jours.
Oui, bien sûr. Oui, non, mais je pense que le péché de l'homme lui fait mal aussi.
Mais dans Genèse 1, il travaille 6 jours
Oui,
et il se repose le
d'accord.
septième, c'est lui,
Oui,
tout
oui.
seul.
Oui, non, mais quand je reviens au péché, là, dont on parle, quand l'homme, sa créature bien-aimée, disons, pêche, fait mal, il doit quand même souffrir.
Il
Et imaginez, vous êtes
attend.
père de famille, que votre
Voilà.
enfant fasse une grosse bêtise, vous n'allez pas être content quand même.
Absolument.
Donc je pense que pour Dieu c'est pareil. Hein. Et même quand on fait mal à un de nos frères, le frère étant aussi une créature de Dieu, ça doit lui faire mal aussi.
Eh oui.
Et oui. Alors, on pourrait peut-être parler aussi, peut-être, de la responsabilité des hommes sur l'environnement et sur la création. Il y a un
Oui.
péché vis-à-vis peut-être de la création de Dieu. Je viens de parler de celles, des conséquences sur le frère et sur Dieu, mais lorsque l'homme peut pécher au niveau de la création.
Oui, il y a un passage dans la lettre aux Romains qui dit que la création soupire et attend la délivrance des enfants de Dieu, au chapitre 8. Et c'est un fait d'ailleurs, aujourd'hui on a des mouvements écologiques, écologistes qui réfléchissent sur ces sujets. Et je voudrais peut-être voir présenter les choses simplement, mais de manière globale, sur quatre ruptures dues au péché. Quatre ruptures. La première, c'est donc la rupture entre l'homme et Dieu. L'homme s'éloigne de Dieu et de ce fait, il est un peu comme une voiture sans essence, comme un ordinateur
Il va pas
sans
loin.
énergie, il ne va pas loin. Voilà. La deuxième rupture, c'est la rupture de l'homme en lui-même. L'homme est privé à la fois du contact avec Dieu qui est bienfaisant, sécurisant, mais aussi éclairant, qui lui permet d'apprendre les choses. La rupture de l'homme en lui-même. La troisième rupture, c'est la rupture de l'homme avec l'homme. Parce que l'homme, quelque part, est fragilisé, alors il a du mal dans la relation et il cherche à compenser, il se bat, il fuit, etc. Et la quatrième rupture, c'est la rupture de l'homme avec la création.
Avec la création.
L'homme qui ne comprend pas la création, qui ne la connaît pas bien, qui ne sait pas bien l'utiliser. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que les feuilles de certains arbres sont pour la guérison des gens.
Oui.
Et donc, on sait bien que l'industrie pharmaceutique a trouvé beaucoup de choses, mais je pense que dans la présence de Dieu, il y a une compréhension de la création animale, végétale, qui sera absolue et qui fera, pour l'instant on ne le comprend pas bien, mais que le lion mangera de la paille. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le lion mange des animaux? Il y a quelque chose qui est en rupture dans la création, et pendant le royaume ou pendant l'état éternel, il me semble que toutes ces choses reviendront dans une perspective normale.
Alors, peut-être pour conclure un peu sur le péché, il faudrait parler du remords, de la contrition, de la repentance. Quelles sont les différences que vous faites et de la réparation, peut-être?
Oui, ça c'est très important. Fondamentalement, ce qu'il faut faire, on va commencer par le plus juste, c'est la repentance. La repentance, c'est du grec du Nouveau Testament, homologeo, se repentir. Non, la repentance, c'est métanoïa, c'est un changement de compréhension à l'égard des choses. Et la confession, c'est homologeo. Autrement dit, se repentir, c'est être d'accord avec Dieu, c'est voir dans notre faute ce qui ne va pas et de dire effectivement, je le voyais comme ceci, maintenant je le vois comme cela, et je suis d'accord, je change de compréhension, la repentance, et je confesse, je suis d'accord avec Dieu, hein, la confession. La
Oui, d'abord, il y a eu
contrition.
le remords quand même avant, qui avait pas de conscience que ça n'allait pas.
Alors, il y a des gens qui le font après, hein, le remords, hein, donc ça dépend un petit
Oui,
peu de,
non, mais ça,
voilà,
on n'est pas là pour classer.
oui, donc en fait, c'est pour ça que moi, j'ai commencé par parler de la repentance, parce que la repentance, c'est le fait de se rendre compte que Dieu n'est pas d'accord avec nous.
Oui.
Et du coup, quand on est touché par l'Esprit de Dieu en nous, on dit effectivement, c'est vrai, je me repens de mon changement de compréhension, et je confesse ma faute à Dieu, c'est-à-dire que je suis d'accord avec lui.
Voilà, on veut revenir vers Dieu.
Voilà.
On trouve la volonté de revenir vers Dieu.
Voilà. La contrition, c'est l'état intérieur où on se reconnaît petit, où on se reconnaît fautif, où on a cette qualité morale de retour vers Dieu. Et le remords, c'est autre chose. En grec du Nouveau Testament, le remords, c'est merizo, qui veut dire qu'on est partagé, en fait.
Bah, tout ce
Autrement
qu'on a
dit, on
fait.
se dit, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal
Voilà.
fait?
Oui.
Et ça, c'est pas une bonne attitude. C'est quelque chose qui sert à rien. Quand on a du remords, ben finalement, il vaut mieux se repentir. Autrement dit, si on sait qu'on a mal fait, on dit à Dieu, on a mal fait, on juge la chose et on l'abandonne, hein, on la catalogue, on est d'accord avec Dieu pour dire que c'est mal. Alors que le remords, c'est finalement se replacer en arrière, comme si on pouvait refaire la chose, mais ça sert à rien.
Alors, si on parle de pénitence, il vaut mieux évacuer tout de suite ce qu'on peut comprendre et d'une façon traditionnelle, effectivement, des attitudes qui feraient que Dieu soit satisfait de nous voir souffrir dans une certaine manière pour nous faire, disons, pour nous pardonner. Je pense que c'est pas ça que Dieu veut.
Non.
Dieu ne veut pas de sacrifice, il préfère une conversion du cœur.
Voilà.
Donc, je crois que c'est pas la peine de partir à pied à Saint-Jean-de-Compostelle. passer la nuit à rester des prières, je crois qu'il préfère évidemment une conversion du cœur.
Oui. Oui, oui, sachant que donc Dieu n'ajoute pas à notre souffrance une souffrance pour nous punir ou pour, mais par contre que notre souffrance est déjà un indicateur qui devrait nous pousser à la repentance. Par exemple, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10, il est dit la tristesse, selon Dieu, autrement dit la tristesse qui est quelque chose que Dieu a mis en nous, est quelque chose qui nous pousse à une repentance qui nous sauve, et justement de laquelle on n'a pas de regret. Mmh. Autrement dit, quand on est triste, ben c'est fait pour quelque part nous faire bouger, nous faire agir, et nous faire justement reconnaître la faute et changer. Et de cette tristesse-là, on n'a pas de regret.
On n'a pas de regret de cette tristesse-là, bien sûr. Et en fait, il ne faudrait peut-être pas non plus perdre de vue que le chrétien a quand même quelque chose d'essentiel, c'est que Jésus-Christ a pris les fautes de l'humanité, les a offertes en sacrifice, et mort et ressuscité, donc nous avons été justifiés par ce sacrifice-là.
Oui.
Donc nos fautes sont effectivement effacées.
Oui. Alors la difficulté que certaines personnes ont, c'est que, ayant confessé leurs fautes, ayant reçu le pardon de Dieu, après elles ne voient pas leurs fautes comme effacées. Et de ce fait, elles considèrent que leur vie est un échec, qu'elles auraient pu faire mieux, que quand elles vont se présenter devant Dieu, éventuellement ça va mal se passer, elles craignent de rencontrer Dieu et elles pensent que c'est quelqu'un de terrible, alors que fondamentalement, l'œuvre de Dieu sur ce que nous avons mal fait est une œuvre de purification et de restauration complète. Oui.
Donc il ne reste plus qu'à espérer, prier, et nous serons pardonnés. Nous sommes pardonnés déjà.
Voilà, espérer, c'est attendre.
Oui. Voilà, on attend, oui, tout effectivement. À fait. Et puis cette grâce, il faut l'accepter.
Il faut l'accepter. Si on ne l'accepte pas, on n'a rien. Et l'accepter, c'est vraiment l'intégrer dans notre regard sur nous, sur ce que nous faisons, sur... et bien souvent, on n'est pas dans cette acceptation parce qu'on voit des enjeux là où il n'y en a pas, on imagine que comment dire, quand on dit « j'ai pas le temps », par exemple, on pense qu'on n'a pas assez de temps pour faire quelque chose que Dieu nous demande.
On est mal organisé, tout simplement.
Oui, mais peut-être qu'on veut organiser de manière trop compliquée.
Oui, oui.
Aussi. Peut-être qu'on ne se rend pas compte à quel point l'Esprit de Dieu nous amène simplement à faire des choses qui sont bien faites et qui sont importantes.
Donc, problème de confiance en Dieu, voilà. Et se mettre dans sa main.